Donc de l'argent pur. Les Proverbes au chapitre 10 au verset 31, la bouche du juste produit des termes de sagesse, donc des termes de bon sens, des termes qui aident à vivre, mais la langue aux propos pervers sera coupée. Vous voyez une image. Proverbes au chapitre 13 au verset 3, qui surveille sa bouche protège sa vie. Fais attention à ce que tu dis. Ne parle pas trop. Vous voyez, ce sont des conseils de bon sens que nous utilisons. Donc, qui surveille sa bouche protège sa vie. Qui ouvre trop large ses lèvres se ruine. Effectivement, à force de dire du mal des uns et des autres, quelquefois, on se retrouve très isolé, très menacé, très malheureux. Un cœur intelligent recherche le savoir, mais la bouche des sots, la bouche vraiment des imbéciles, et là l'expression elle est réelle, elle est concrète, elle est très parlante, la bouche des sots broute la folie. Brouter, comme la vache qui broute. Et c'est très intéressant ce verbe brouter, parce que à ce moment-là, celui qui par son cœur intelligent recherche le savoir, recherche l'intelligence, si vous voulez, essaye de faire dialoguer ensemble la foi et la raison, celui qui met toute son intelligence au service de sa foi, c'est vraiment remarquable. Mais la bouche des sots, des sots qui parlent pour ne rien dire, broute la folie, brouter, c'est-à-dire qu'il se transforme en véritable animal. Au lieu de donner à son corps sa dimension spirituelle, à ce moment-là, il se transforme en animal. Je trouve cette image, vous voyez comme cette image est concrète, comme elle est réelle, brouter, c'est-à-dire ressembler à un animal. Nous avons donc cette image de brouter la folie, de faire que l'homme renonce à sa dignité et à son intelligence humaine. La bouche du sot est ruine, ses lèvres sont un piège pour lui-même. Et vous voyez que c'est d'une actualité extraordinaire, parce que quand vous entendez quand même beaucoup d'âneries à la télévision qui vous sont présentées comme des vérités philosophiques, intelligentes, de la recherche la plus récente, vous voyez bien qu'il y a une réalité très concrète derrière ces proverbes. Et qui garde sa bouche et sa langue se protège des angoisses. Vous voyez, ne pas créer aussi de la peur inutile par certains discours. Mon beau-père, paix à son âme, et c'est pas compliqué, il était d'un pessimisme dramatique. Et pour lui, il fallait que ça aille mal. Alors, quand ça allait mal, il était content, parce qu'il disait « j'ai raison ». Et vous voyez, qui garde sa bouche et sa langue, se protège des angoisses. Effectivement, ne pas parler pour ne rien dire. Et alors, en hébreu, c'est extraordinaire, parce qu'on a deux mots. Il y a un mot pour exprimer la parole que je dis, le mot davar, et à ce moment-là, c'est vraiment, je dis une parole, j'énonce un concept, je dis quelque chose avec toute mon intelligence et la force de mon langage. Et puis il y a un autre mot, milim, qui est une pensée inachevée. Allez, tu parles pour ne rien dire, tu vois. Tu parles pour ne rien dire. Et vous voyez ce double aspect dans la langue hébraïque qui est très intelligent, parce que c'est très fin. Hein. On voit très bien une parole qui a du poids et d'autres paroles qui, effectivement, sont comme du vent. Hein. Le grand un mot aussi qui est très important, c'est que nous... On dira en français que nous courons constamment après des illusions. Or, ce terme illusion, comment est-il traduit en hébreu illusion? C'est quelque chose dont nous rêvons, vous voyez, c'est quelque chose d'abstrait. Mais l'hébreu va montrer que c'est une réalité physique. courir après des illusions, c'est courir après des chimères, après des, quelque chose dont on rêve. Eh bien, en hébreu, c'est le souffle qui sort de ma gorge, mon haleine, je ne peux pas la saisir à pleine main. Et vous voyez, l'illusion, c'est la réalité de ce que je ne peux pas saisir, enserrer entre mes mains et prendre comme un objet. Et par conséquent, il y a cette espèce d'image de vouloir toujours saisir le vide, voyez, m'emparer du vide pour en faire quoi ? Mais pour en faire véritablement une idole. Mon rêve, ce dont je rêve, je vais en faire mes illusions, si vous voulez. Je peux en faire effectivement une idole. Alors, nous avons aussi... dans le Cantique des Cantiques, nous avons cette image de la bouche et du baiser, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ses caresses sont meilleures que le vin et meilleures que la senteur de ses parfums, dans le Cantique au chapitre 1 et au verset 2. Et il y a eu 1000 interprétations à propos de ce texte, qui est un texte difficile, et que l'Église a récupéré pour en faire un dialogue entre l'amour du Christ et son Église. Alors, vous voyez que c'est très intéressant parce que dans des lieux de pèlerinage, qu'ils soient très importants ou très modestes, on voit souvent des pèlerins embrasser. Le besoin de toucher, d'embrasser la statue de la Vierge ou bien celle d'un saint. Et dans l'Ancien Testament, ce geste de piété existait aussi. Mais était-ce un geste de piété ou un geste d'idolâtrie ? Et nous avons justement cette image de Dieu qui dit à Élie, le prophète Élie, « Je laisserai en Israël un reste de 7000 hommes, tous ceux dont les genoux n'ont pas plié devant la statue de Baal, le dieu babylonien, et ceux dont la bouche ne lui a pas donné de baiser, dans le premier livre des rois au chapitre 19 et au verset 18. Donc vous voyez, c'est bien une de la nature humaine la plus profonde, le désir de vouloir embrasser, embrasser, et par conséquent, cela fait partie de cette nature, d'où, vous voyez, tous ces éléments autour de la bouche, de la voix, de les lèvres et de la langue, qui expriment une réalité physique qui se joue avec notre corps. Et par conséquent, l'image d'embrasser, et on a plusieurs scènes dans l'Évangile où effectivement les apôtres repoussent les enfants, parce que les enfants c'est encombrant, et encore plus à cette époque-là, parce que à cette époque-là on ne fait pas attention aux enfants, et les apôtres font le service d'ordre, donc dont les repoussent, et Jésus, au contraire, les prend et les prend sur ses genoux en disant, en les embrassant et en s'en servant comme d'une image, celui qui n'a pas la pureté d'un enfant, je dirais la naïveté d'un enfant. Retrouver la naïveté d'un enfant. Et puis nous avons aussi cette image qui est vraiment extraordinairement parlante dans l'évangile de Matthieu. Vous vous souvenez que Jésus chasse les marchands du temple et ensuite il entre dans le temple. Et il entre dans le temple en accompagné de ceux qui étaient exclus, c'est-à-dire à l'époque de ceux qui avaient un handicap physique. Donc de tous ceux qui étaient exclus de la bonne société, donc les handicapés, les prostituées, tous les autres et les enfants. Et ils forment un cortège magnifique pour entrer et célébrer la gloire de Dieu. Et par conséquent, nous avons l'image en premier de la bouche. Et quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus va faire son premier grand discours, qui est le discours des Béatitudes. On nous dit qu'il monte sur une montagne. Alors, tous ceux qui sont allés au bord du lac de Tibériade voient que c'est une petite collinette bien gentille, mais pourquoi est-ce qu'on emploie le mot montagne? Parce que ça rappelle l'Horeb. Donc, Jésus entre dans la succession de Moïse. Et puis, donc, on nous dit ensuite qu'il ouvre la bouche. Alors, ça nous paraît ridicule. Alors, évidemment, on traduit en disant « il commença son discours ». Mais le texte hébreu nous dit « il ouvre la bouche ». Et il ouvre la bouche pour montrer que, dans la symbolique biblique, qu'il est inspiré par Dieu et que sa bouche est pour lui le moyen de communiquer. Alors, vous comprenez que, effectivement, quand on nous dit, on a comme cela beaucoup de traductions. Ce matin, ça me fait penser que ce matin, j'ai oublié de vous dire aussi un exemple. Alors, je reviens à propos du ventre ce matin. Remué jusqu'au fond de ses entrailles, c'est-à-dire d'avoir mal au ventre d'angoisse. Et j'ai complètement oublié de vous citer comme exemple Jésus, dont on nous dit l'évangile traduit comme ça, enfin le texte dans l'évangile est traduit comme ça, il tressaille. Bon. Mais c'est pas qu'il tressaille, c'est qu'il se tord de douleur dans le ventre, et se... Jésus tressaille devant la fille de Jaïr qui est morte et qu'il va ressusciter, et il tressaille aussi devant la mort de Lazare. Et donc cet exemple très fort pour montrer comment Jésus se situe devant la mort, hein, c'est où il l'envoie, la réalité concrète. Alors, pardonnez-moi pour cette parenthèse, je reviens justement à la bouche, et nous avons le fait que cette bouche, eh bien, est l'organe par excellence de la communication. Et par conséquent, quand Matthieu dit « Jésus ouvre la bouche », il veut signifier qu'il a un vrai corps de chair comme nous et que par conséquent, il va lui falloir du courage pour annoncer ce qu'il va dire aux gens qui l'entourent et qui sont là prêts à évidemment le critiquer. Et par conséquent, notre bouche, elle joue un rôle essentiel dans notre relation aux autres. Et nous savons bien distinguer quand la voix est de bonne humeur. Ça se voit tout de suite au téléphone, si ça va bien ou pas, si la voix est aimable ou au contraire si la voix est dramatique. Alors ça s'entend tout de suite au ton de voix. Et par conséquent, les psaumes dénoncent souvent des paroles qui sont aussi douces que la crème. Et le terme est très précis. Vous savez, quelque chose qui coule dans la bouche et qui est très agréable, alors que notre cœur est plein de mauvaises pensées. Nos paroles sont plus douces que la bouche, mais nos paroles sont plus douces que l'huile, mais en réalité, ce sont des poignards. Et on voit très bien, si vous voulez, les paroles gentilles qui, sous un aspect gentil, disent un tas de vacheries. Et ça arrive très souvent dans le psaume 55 au verset 22. Et par conséquent, le Seigneur qui lit dans les cœurs voit s'agiter en nous tous les ressentiments que nous portons, et nous savons bien que nous portons des paroles blessantes qui ne demandent qu'à sortir de notre bouche, si bien que le juste... Alors, il y a trois termes extraordinaires en hébreu. On nous parle le juste, le saint et l'élu. Ces trois termes sont absolument équivalents pour dire que nous sommes des saints virtuels. Ça, mon petit-fils était très fort pour me montrer ses notes virtuelles. Mais quand je lui demandais le carnet, les notes virtuelles n'apparaissaient jamais. Bon, eh bien, nous avons effectivement cette potentialité en nous, si vous voulez, de porter la justice au sens de la sainteté. Quand j'emploie le mot, quand dans la Bible, quand dans les psaumes on trouve le mot « le juste », eh bien, c'est l'équivalent du saint, de l'élu, de ce que je suis. Parce qu'aux yeux de Dieu, je suis juste et non pas un pécheur condamné éternellement. Et par exemple, nous avons deux manières très contradictoires dans la Bible, dans les psaumes. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux psaumes qu'on choisit, pour choisir celui qui correspond à notre état spirituel au moment où nous voulons le prier. Nous avons par exemple un psaume qui dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul n'est juste devant toi ». Bon. Autrement dit, Seigneur, je t'en supplie, je suis dans un tel état, ne regarde pas, l'ennemi m'a terrassé, écrasé, alors je tends les mains vers toi et je répète ma prière devant toi, je suis comme une source asséchée et j'ai besoin de toi. Puis nous avons, ça c'est le psaume 143, puis nous avons un autre psaume, le psaume 25 qui dit « Juge-moi, juge-moi parce que je suis juste devant toi. Donc tu peux me juger, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. » Et par conséquent, le juste est celui qui n'a pas laissé courir sa langue, ni fait du tort à son prochain. Dans le psaume 15, au verset 3. Donc nous avons quelque chose ici qui est très clair, c'est justement le problème de toutes ces paroles. À un autre moment, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 58, il nous est dit, le jour de votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire et puis vous tapez les gens qui travaillent pour vous. Or, le jeûne que je préfère, c'est détacher les courroies du joug et défaire les liens qui font du mal et qui vous emprisonnent. C'est-à-dire, ces liens qui sont ces liens familiaux, extra-familiaux, sociaux, extra-sociaux, qui font que nous sommes prisonniers et que nous voulons toujours, si vous voulez, par des paroles malfaisantes, attacher, rattacher les uns aux autres et essayer d'organiser une société, une mini-société, hein, au sein de laquelle c'est moi qui commande. Et donc, ici, il y a justement un autre endroit, la bouche des impies n'est rien de sûr, leur langue est une pente glissante et leur gosier une tombe béante. Au psaume 5, au verset 10, voyez là, l'importance justement du discours relationnel. Et une médisance qui peut arriver au point de non-retour, voyez, comme le malheureux du psaume 22 qui perd ses forces et dont on nous dit que sa langue est collée à sa mâchoire, tant son corps est desséché et qu'il n'a même plus la force de respirer. Et vous savez que ce psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est le psaume selon Saint-Luc que Jésus récite sur la croix. Alors, une chose qui est amusante, si vous voulez, évidemment, si vous voulez, ça c'est ma déformation professionnelle, moi j'ai toujours le réflexe de regarder un petit peu ce que les miniatures nous disaient, parce que les miniatures des manuscrits étaient très évocatrices sur le plan de la théologie. La théologie, c'était réservé aux clercs, c'était réservé aux savants, mais enfin, les gens ordinaires, les images exprimaient quelque chose. Et alors, là, nous parlons donc de la bouche, qui est cet organe qui peut être à la fois très bon, puis en même temps très mauvais. Et on représente l'enfer dans les miniatures du 12e, du 13e siècle, comme la gueule d'un sanglier ouverte. Alors, vous avez un sanglier qui est vu de profil, avec sa gueule grande ouverte. On voit ses oreilles, on voit son oreille, on voit son nez, enfin, je ne sais pas si c'est un nez, son groin. On voit ses crocs. Bon, et de cette gueule ouverte sortent justement les damnés. Et vous voyez, c'est très évocateur l'idée représenter l'enfer comme une gueule ouverte. Et effectivement, nous savons très bien que nous pouvons avoir des paroles mortifères. Évidemment, je pense qu'aucun d'entre nous n'aura l'idée de prendre un couteau pour tuer, mais nous savons très bien que combien de fois nous avons dit des paroles qu'ensuite nous regrettons. Et que c'est bien cela la grande difficulté. Alors ensuite, voilà déjà la réalité de la bouche, mais nous avons aussi la voix. Et la voix est très souvent utilisée dans les psaumes lorsque je demande à Dieu qu'il écoute ma voix suppliante, quand je crie vers lui et quand je lève les mains vers son sanctuaire, dans le psaume 28 au verset 2. Et le psaume nous dit qu'il y a des moments où nous n'avons plus de voix, des moments où nous ne pouvons plus parler, mais que justement, nous avons un autre moyen de nous exprimer, qui est le moyen de nos larmes. Et les larmes sont le substitut de notre voix lorsque nous ne pouvons plus parler. Le psaume permet de dire « Le Seigneur a entendu la voix de mes larmes et il a accueilli ma prière. » Au psaume 6, et les versets 9 à 10. Vous voyez, la voix de mes larmes. Et donc c'est une réalité physique qui exprime donc quelque chose. Et justement, la voix est un vrai trésor, elle fait partie de notre être profond et nous avons toutes les sortes de voix et en particulier nous avons cette idée, vous savez, le matin à la prière des Laudes, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ton salut ». Et à ce moment-là, nous avons cette image « Venez ». Crions de joie, s'exprimer par la voix, crier de joie, c'est un terme qu'on trouve très souvent dans les psaumes, lorsque, si vous voulez, on traduit ça quelquefois en français, célébrons le Seigneur. Ben, célébrer le Seigneur, c'est crier de joie. Crions de joie, acclamons le rocher qui nous sauve. Alors voilà, ça j'avais fait l'expérience de cela au moment de la formation des diacres d'Île-de-France. Alors les diacres étaient en majorité des hommes d'une cinquantaine d'années à peu près, dont les enfants étaient déjà grands et donc ils pouvaient se libérer. Mais alors comme en plus c'était l'Île-de-France, vous imaginez, il y en a qui faisaient 150 km pour une session de formation un week-end. Et on leur demandait, au moment où ils faisaient part de leur souhait de devenir diacre, c'est-à-dire de mettre leur potentialité professionnelle, tout leur acquis, toute leur expérience au service de l'Église, on leur demandait de réciter les offices comme les religieux et les religieuses. Et les voilà qui étaient affrontés à la première prière qui est au moment des Laudes, à l'invitatoire, « Venez, crions de joie pour le Seigneur ». Et ça ne veut rien dire en français, « Crier de joie, acclamons le rocher qui nous sauve ». Et vous voyez, nous avons cette réalité-là devant l'hébreu, « Acclamons le rocher qui nous sauve, acclamons Dieu ». En fait, dans l'hébreu, on fait très attention parce qu'on a toujours peur de blasphémer en prononçant le nom de Dieu. Et par conséquent, pour éviter de blasphémer en prononçant le nom de Dieu, on emploie des synonymes. par exemple, notre Père qui est aux cieux. Aux cieux, eh bien, notre Père qui est Dieu. C'est cela ce que ça signifie. Les cieux, on l'emploie à la place de Dieu. Notre Père qui est Dieu. C'est ça ce que, dans le Notre Père. Et acclamons le rocher qui nous sauve. Pourquoi le rocher? Parce que c'est le souvenir de ce moment où Moïse, complètement découragé devant les Hébreux qui rouspétaient parce qu'ils avaient faim et qu'ils avaient soif, où Moïse se retourne vers Dieu en lui disant « C'est toi qui as voulu que ce peuple soit libéré d'Égypte et qu'il soit maintenant dans le désert. » Et à ce moment-là, Dieu répond « Avec ta baguette, frappe le rocher, et du rocher, et il y a une source qui jaillit. » Et ensuite, cette image du rocher, donc, qui est une image concrète, mais une image qui est en même temps une image de vie, puisque ce rocher donne la vie, va être le synonyme de Dieu. Venez, crions de joie, acclamons le rocher qui nous sauve. Et par conséquent, vous avez cette image, justement, de par la voix, justement, de se faire entendre. Alors nous avons, dans le chapitre 63 d'Isaïe, une très très belle prière où le peuple complètement découragé devant les ruines au moment du retour à Jérusalem après l'exil en 587 avant Jésus-Christ dit de toutes les façons, notre Père c'est toi, tourne-toi vers nous, regarde l'état de misère dans lequel nous sommes. Et il fait cette prière, ah, si tu déchirais les cieux. Et déchirer les cieux, voyez, c'est-à-dire déchirer les cieux, c'est une image. Si tu te montrais en vrai, c'est ça ce que ça signifie. Et nous avons, quel est le rapport avec la voix? Alors vous allez me dire, quelle est la voix? Eh bien, nous avons ces deux scènes, effectivement, dans l'Évangile, où nous avons, au moment du baptême de Jésus, les cieux se déchirent. Et la voix de Dieu se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et puis nous avons un deuxième moment, qui est un moment qui va préfigurer la résurrection, et auquel participent Pierre, Jacques et Jean, et qui est le moment de la transfiguration. Et nous avons, au moment, toi tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Et par conséquent, nous avons la voix de Dieu qui se fait entendre. Et nous avons le mystère, nous sommes confrontés avec notre intelligence au mystère de la voix de Dieu qui se fait entendre. Alors, nous avons aussi la voix de Dieu qui se fait entendre par la voix des hommes, c'est-à-dire par la voix des prophètes et par la voix de chacun d'entre nous, dans la mesure où chacun d'entre nous est témoin de cet amour de Dieu, et par conséquent, quand nous portons témoignage de ce que nous croyons, eh bien, c'est la voix qui est l'organe qui est si important. Mais nous avons aussi les lèvres. Alors, vous voyez que l'hébreu détaille très rigoureusement la réalité physiologique de ce que nous sommes. « Ouvre mes lèvres, Seigneur, et ma bouche publiera ta parole. » Les lèvres du sage diffusent le savoir, et les lèvres, on nous parle dans un psaume, les lèvres menteuses, les lèvres flatteuses, les lèvres sincères, les lèvres suppliantes. Et donc, les lèvres... c'est très important parce que les lèvres, c'est un organe qui bouge. Alors, nous avons le sentiment quand nous récitons notre prière que, voilà. Mais, encore une fois, le corps participe à notre prière et, en hébreu, la prière n'est valable que si elle est dite à haute voix. Je suis toute seule dans ma chambre, mais je dois la prononcer à haute voix, comme si je voulais faire entendre ma voix à Dieu. Et par conséquent, mes lèvres bougent. Et nous avons les lèvres criminelles recèlent un piège funeste, alors que le juste, lui, échappe à l'angoisse, dans les Proverbes au chapitre 12, au verset 13. Et au chapitre 12, toujours verset 19, « Les lèvres de vérité sont pour toujours, alors que la langue qui ment, elle ne vivra qu'un instant. » C'est drôlement important, ça. Vous voyez cette idée, les lèvres qui essayent de dire la vérité, eh bien, elles vivent pour toujours, elles sont dans l'éternité, elles sont en communion avec la volonté de Dieu, alors qu'au contraire, les lèvres qui mentent, eh bien, il ne se passera rien, puisqu'elles sont dans le mensonge et dans le contraire. Une chose aussi qui est intéressante à propos du mot « vérité », vous vous souvenez tous de Pilate qui pose la question et qui dit « qu'est-ce que la vérité ?» Et puis, Jésus ne va pas lui répondre à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que le mot « vérité » en hébreu se compose de trois lettres, comme le mot que je vous ai expliqué ce matin, qui est le mot de l'organe qui donne l'organe féminin qui donne la vie et qui, mis au pluriel, exprime la tendresse de Dieu, la compassion de Dieu, d'un Dieu qui nous fait vivre. Et le mot vérité, quand je vous dis que le langage nous est donné justement par Dieu pour exprimer la vérité, eh bien, le mot « vérité » se compose de trois lettres. La première lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Aleph, A-L-E-P-H. La lettre du milieu M, le M, tout simplement. Et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, le Tav, T-A-V, qui est l'équivalent du T. Et par conséquent, ce mot nous permet de montrer, en prenant la première, la dernière, celle du milieu et la dernière lettre de l'alphabet, de montrer que nous avons à notre disposition un outil formidable, qui est l'outil du langage. Et par conséquent, le langage qui englobe justement tout notre alphabet pour exprimer, pour chercher la vérité. Et par conséquent, les lèvres mensongères sont en horreur au Seigneur. Il se complaît en ceux qui pratiquent la vérité. Et vous voyez comme c'est intéressant pour nous de se dire que quand nous parlons, que nous utilisons tout ce vocabulaire que nous avons à notre disposition, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous remarquerez que les animaux ne peuvent pas s'exprimer par des mots et n'ont pas à leur disposition un langage. Sauf un perroquet, si jamais vous avez un perroquet. Et alors, le psalmiste, lui, utilise cette expression pour dire à quel point il a pris ses responsabilités pour annoncer le Seigneur autour de lui. Dans la grande assemblée, j'ai annoncé ta parole. Non, je n'ai pas retenu mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Dans le psaume 40, au verset 10. Retenir ses lèvres. Retenir ses lèvres, c'est en fait, le texte hébreu nous dit mordre ses lèvres. Mordre ses lèvres pour ne pas dire. Vous voyez, c'est très concret, c'est très réaliste. On a envie de dire une vacherie à quelqu'un, il faut mordre ses lèvres pour que la vacherie ne sorte pas. Et vous voyez à quel point cette psychologie, elle est extraordinaire parce qu'elle montre une connaissance très concrète de la réalité humaine. Et par conséquent, souvent, nous attendons des lèvres de notre interlocuteur des paroles agréables ou bien souvent des paroles qui vont dans notre sens. Et nous avons par exemple une image très jolie à propos d'une description une description, on a une, dans le livre des Proverbes, on a une description très réaliste du rôle de la prostituée qui se met dans un carrefour et qui va attirer dans ses filets un jeune homme. Et elle nous dit cela, oui. Les lèvres de la dévergondée, en fait, ce sont les lèvres de la putain, c'est comme ça qu'il faudrait traduire si on voulait être réaliste par rapport au texte hébreu. Distille le miel, sa bouche est plus onctueuse que l'huile, mais en fin de compte, elle est amère comme l'absinthe. Dans le Proverbe au chapitre 5 et les versets 3 et 4. Et vous voyez que nous avons cette image de paroles très douces et très bienveillantes qui sont souvent des paroles trompeuses. Et à un autre moment, on nous dit que les paroles de Dieu sont comme un glaive à double tranchant. C'est-à-dire, c'est absolument le contraire. Nous, on rêve de paroles douces qui nous font du bien, etc. Et puis, la parole de Dieu est comme un glaive à double tranchant. C'est par conséquent, c'est pour dire que la parole de Dieu est tranchante, elle est coupante. C'est-à-dire qu'on ne transige pas avec la vérité. Et par exemple, on nous dit aussi un autre moment dans le livre de la sagesse, le vaurien fomente le mal parce qu'il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. Vous voyez, toutes ces images-là sont des images très, très réalistes et très concrètes. Et quand nous prions, Dieu qui aime la vérité au fond de l'être, saisit toujours l'écart qu'il y a entre la sincérité de notre cœur et puis ce que nos lèvres expriment. Et par conséquent, il se fâche quand il voit ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules me rendent gloire. La crainte qu'il me témoigne n'est que précepte humain et leçon apprise. C'est pourquoi, dit Dieu, je continuerai à lui prodiguer des prodiges, si bien que la sagesse des sages se perdra et que l'intelligence des intelligents se dérobera. Dans Isaïe, au chapitre 29, les versets 13 à 14. Alors, des lèvres, justement, des lèvres flatteuses, sont pleines de charme. Il y a un psaume dont le thème principal décrit le rôle que jouent les lèvres, qui est le psaume 12. Et c'est la prière d'un fidèle qui se lamente sur la solitude qu'il éprouve en constatant tout le mal qui règne autour de lui, puisque la loyauté a disparu. Les hommes entre eux disent du mal les uns des autres. Ils ont des lèvres flatteuses. Alors, vous voyez, les lèvres, justement, comme les lèvres flatteuses, les lèvres menteuses, c'est la même chose. Et en même temps, ils ont un cœur double. Et le cœur double, c'est le contraire d'un cœur unifié. Ce qu'on voyait ce matin, un cœur unifié, c'est un cœur qui est en paix, c'est un cœur qui sait où il va, c'est un cœur droit. Un cœur double, justement, c'est le cœur qui ne sait pas décider. Et justement, le psaume décrit la force de la parole et l'illusion de ces puissants qui disent « Par notre langue, nous vaincrons, nos lèvres sont avec nous, qui sera notre maître ?» Par nos lèvres et par notre langue, nous vaincrons. Alors, écoutez, vous avouerez que ce texte écrit il y a des milliers d'années, et d'une actualité extraordinaire quand vous voyez les informations et quand vous voyez l'actualité de ce qui se passe en Ukraine actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu le discours de Poutine, il y a 8 jours, je crois, à peu près, hein, où c'était exactement cette image. Par nos lèvres, par la force de notre discours, nous vaincrons. Et nous avons exactement la même chose aussi dans le livre de la sagesse. Nous sommes nés du hasard, la vie est trop courte, par conséquent, enivrons-nous, faisons la fête et profitons. Et avec cette idée que par la langue, par notre discours, eh bien, nous sommes les maîtres du monde, et avec cette idée que par la force, nous vaincrons. Et par conséquent, vous voyez ce que je trouve extraordinaire dans le texte biblique, c'est que il y a une actualité, une réalité humaine, un portrait de la psychologie humaine qui transcende les siècles. Et par conséquent, en lisant attentivement le texte et en le restituant dans la réalité concrète de ce qu'il veut dire, nous nous rendons compte que nous avons sous les yeux un portrait de l'homme tel qu'il est dans sa nature la plus profonde. Et par conséquent, nous avons aussi le malfaisant qui est suspendu aux lèvres iniques, le menteur qui prête l'oreille à la langue pernicieuse. Et de tout cela, vous voyez à quel point, pour nous croyants, il est difficile de prendre notre distance par rapport au discours que nous entendons, par rapport au discours de la société en général. Et vous voyez que ce qui est intéressant dans cette lecture des psaumes, c'est constamment de nous mettre en garde pour pouvoir décoder le langage que nous entendons. Et c'est pour cela qu'il y a une description si importante sur les lèvres, sur la voix, sur la réalité humaine. Et par conséquent, nous avons aussi le problème de la bêtise, parce que les lèvres du sot, les lèvres de l'imbécile, peuvent exprimer n'importe quoi, et à ce moment-là, tous ceux qui veulent le rejoindre le font. Et par conséquent, vous voyez, nous avons ce que je trouve extraordinaire dans le texte biblique, c'est que nous avons à la fois une réalité humaine, spirituelle et personnelle, de la réalité de ce que je vis, moi, autour de moi, dans mon monde à moi. Et puis, cela me force aussi à voir la réalité de la société dans laquelle je suis insérée. Une société qui change considérablement et qui n'existait pas comme cela il y a 50 ans, avec le problème maintenant de tous les réseaux sociaux. Et en particulier pour les jeunes, la réalité de pouvoir avoir le souci du discernement. D'où l'importance si extraordinaire à la fois de lire les psaumes pour pouvoir nous conforter dans notre réalité physique, charnelle, corporelle et spirituelle en même temps, qu'il n'y a pas de dichotomie entre les deux, mais qu'il y a une unité profonde, et que c'est à partir de cette unité profonde de ce que je suis sous le regard de Dieu que je peux avoir le discernement pour tenir le coup dans la société dans laquelle nous vivons. Voilà.